Écoutez, téléchargez et partagez toutes les émissions du OFF 2017 sur www.osmose-radio.fr.
Osmose Radio, la web radio du OFF.
Vous apprendrez bien vite qu'au théâtre, le meilleur se passe souvent en coulisses.
Être ou ne pas être au Festival d'Avignon, c'est la question qu'on peut se poser encore une fois.
Un œil en coulisses, l'émission qui débauche les artistes et les déloge le temps d'une heure.
Indien vaut mieux que deux, tu l'auras. Et on ne le répétera jamais assez. C'est pour ça que pour ma part, je me suis toujours intéressé à la danse indienne parce que j'avais une garantie de résultat, je savais que ça allait me plaire. Et pour ma part, j'avais découvert ça il y a quelques années et je continue de temps en temps à m'y intéresser. Et le Festival OFF d'Avignon m'offre toujours des occasions supplémentaires de découvrir des aspects de cette culture lointaine qui me paraît parfois bizarre, parfois franchement bizarroïde même, qui ne correspond pas vraiment à mes valeurs d'occidental intransigeant. Et puis en même temps, des fois, ça permet aussi de se laisser séduire par des choses qu'on ne connaît pas, comme c'était le cas de la danse Kathak que j'ai découvert grâce à votre spectacle. Isabelle Anna, bonjour.
Bonjour Stéphane, merci de me recevoir.
Eh bien de rien, c'est un plaisir justement pour moi d'avoir découvert cet aspect de la culture indienne que je ne connaissais pas. Alors l'Inde, hein, c'est un sous-continent, c'est vaste, et donc cette danse Kathak correspond à une région géographique très précise de l'Inde, mais on aura l'occasion d'y revenir. Vous nous expliquerez tout ça, mais pour le moment vous vous produisez jusqu'au 30 juillet à l'espace Alia, tous les soirs à 22h30. Alors, vous êtes fait...
Relâche le mercredi.
Relâche mercredi, en effet. Mais vous êtes là depuis le début du festival.
Tout à fait, oui.
Alors, comment ça se passe avec les gens qui viennent voir votre spectacle? Est-ce qu'ils sont aussi ignorants que moi par rapport au sujet? Est-ce que c'est des gens qui connaissent déjà bien la culture indienne? Est-ce qu'il y a des gens qui sont totalement néophytes et qui font la découverte grâce à votre spectacle? Parce que si vous avez le temps de discuter un peu avec eux, quels sont les retours que vous avez jusqu'à présent depuis le début du festival?
Alors, on a eu des néophytes. On a eu aussi des personnes qui connaissaient déjà l'Inde. J'ai quelques connaissances aussi sur Avignon, de personnes qui ont passé du temps en Inde, qui sont déjà proches de la culture indienne, qui pratiquent elles-mêmes de la danse indienne, peut-être d'autres styles. Et donc, en effet, des personnes totalement néophytes qui sont venues un petit peu par hasard. Voilà, on a eu
votre affiche est belle aussi. Ouais.
Ah, c'est très gentil, merci.
Et alors, comment vous avez été amené à vous intéresser à ça? Parce que c'est quand même une culture très éloignée de nos références à nous. C'est aussi pour ça qu'elle nous intéresse, mais aussi pour ça qu'elle peut nous bloquer, parce qu'il y a des tas de nuances au niveau religieux, au niveau artistique, soit qui nous sont inaccessibles ou difficilement profanes, soit carrément qui peuvent nous rebuter. Et tous les ragas, tous les mantras, tout l'aspect religieux, etc., ça peut être un souci. Et vous, la danse Kathak, par contre, précisons-le d'entrée, n'est pas une danse religieuse. C'est une danse de cours et donc c'est une danse qui a aussi un aspect un petit peu politique. Comment vous avez été amené à découvrir ça? Comment vous avez été amené à avoir envie de l'interpréter?
Alors, déjà, je suis tombée dans la danse indienne et dans la culture indienne depuis toute petite, puisque mes parents ont créé un an avant ma naissance un centre culturel à Paris, qui avait pour but justement de promouvoir les arts traditionnels du spectacle, surtout l'Inde, puisque l'Inde rayonne quand même sur beaucoup de cultures. Et donc ce centre s'appelle le Centre Mandapa, dans le 13e à Paris. Et donc je suis née un an après, j'ai grandi avec la musique indienne, la danse indienne autour de moi, et dès l'âge de 4-5 ans j'ai commencé à faire de la danse indienne. Et à l'époque je pratiquais le Bharatanatyam, puisque c'était les seuls cours qui étaient proposés au Mandapa.
Le Bharatanatyam, c'est comme ça que j'ai découvert la danse indienne.
Un style du sud de
l'Inde. Ouais, et qui est par contre une danse religieuse.
Religieuse, oui, disons que c'est danser dans les temples et ça l'est toujours, oui, ça a gardé son aspect sacré.
Ça consiste aussi beaucoup à mimer les aventures des dieux, non?
Oui, tout à fait, oui. Mais je dirais plutôt sacré que religieux.
Ah, explique-moi la nuance pour vous. Ah, je vous ai posé une colle. Non, enfin, je dis ça, c'est parce que pour moi, ça me fascine de voir dans la danse indienne, donc le Bharatanatyam, cette danse religieuse liée au panthéon de l'hindouisme, mais aussi dans la danse et des danses apparentées, puisque vous disiez vous-même que l'Inde rayonne sur d'autres cultures alentours, notamment la danse thaïlandaise. La danse thaï, chaque geste correspond à un passage précis d'un poème sacré, en l'occurrence. Donc ça, c'est des choses que je ne comprends pas ou mal, et par contre, qui me fascinent malgré tout. D'où ma question, voilà. Et donc, d'accord. Du Bharatanatyam, qui est une danse religieuse, vous êtes allé vers le Kathak.
Oui, que j'ai découvert en 98, et donc j'ai pratiqué pendant 2 ans et demi à Paris, puis j'ai été boursière du gouvernement indien et de Égide. À l'époque, c'était une branche du ministère des Affaires étrangères. Je suis partie pour un an, et en fait, je suis restée 9 ans. Voilà, j'ai fait 5 ans d'études sur place, 2 diplômes. Voilà, et à la suite de, enfin, pendant mon séjour, à la fin de mes études, j'ai été reconnue par le gouvernement indien comme une des rares occidentales danseuses de kathak solistes. Voilà, donc c'est vrai que je représente un petit peu l'Inde. Je suis un petit peu comme une ambassadrice de l'Inde en dehors de l'Inde. Voilà.
D'accord. Et vous êtes partie un an et puis ça a duré 9 ans. Et après, on veut nous faire croire que c'est les Indiens qui ont inventé les maths il y a 10 000 ans. Ouais, bien sûr, les gars. Quoi qu'il en soit, eh bien, on est bien content que vous soyez revenus, même au bout de 9 ans, pour nous présenter ce spectacle qui s'organise autour de 3 tableaux qui correspondent à 3 approches différentes. Le Kathak, comme je le disais tout à l'heure, alors ça s'orthographie en caractère romain, Kathak avec un K, K-A-T-H-A-K, et vous reprenez cette bizarrerie un petit peu orthographique sur la suite de l'intitulé du spectacle, Kathak à contre-courant, avec un K à chaque fois. Alors, donc cette liberté que vous avez prise avec l'orthographe, en fait, elle a une implication, puisque vous prenez aussi des libertés avec les traditions indiennes.
Exactement, c'est-à-dire que je me réapproprie cette danse, qui est une danse donc traditionnelle, que j'ai apprise vraiment dans la tradition, avec tout ce que ça comporte. Et je me la réapproprie donc sur des musiques qui ne sont pas du tout de la musique indienne. Donc il y a le deuxième tableau sur le boléro de Ravel, que j'intitule « Mon boléro ». Voilà, parce que c'est vraiment une interprétation très personnelle du boléro de Ravel sur une version piano, d'ailleurs, qui est beaucoup plus intimiste. Et où j'utilise le kathak, mais vraiment comme moyen d'expression corporelle, et je le métisse avec la danse orientale, avec des pas de danse basque, yiddish, flamenco. Voilà, c'est un.
La danse basque, c'est pas le fandango qu'on dit ? Non, ah, excusez-moi, je fais
des
une confusion.
Des danses régionales, folkloriques, oui.
D'accord, parce que quand on parle de danse basque, ça m'évoque rien. Fandango, ça m'évoque déjà 2-3 pas peut-être. Mais bon, je ne suis pas un grand connaisseur de toutes ces cultures folkloriques, mais c'est vrai que vous avez fait un travail de synthèse en quelque sorte autour de ces 3 tableaux. Alors, commençons par le commencement. Tout d'abord, pour les néophytes comme moi, il est nécessaire, en tout cas vous avez au moins l'élégance de nous apporter quelques explications en voix off. On est plongé dans l'obscurité, il n'y a aucune fioriture sur votre plateau, tout est organisé, c'est un seul en scène, vous êtes seul en scène pour ce spectacle, et une voix off nous donne quelques éléments, et notamment nous récite un poème, « Ô grand roi, tu es le soleil de la terre sacrée », enfin ce genre de choses, j'ai plus le texte précis en tête, et ça m'a vraiment fait penser au Cantique des Cantiques. Alors je me disais, disons, on nous dit que le kathak c'est pas de la danse sacrée, finalement ça y ressemble un peu, et non, c'était réellement une danse de cour, une danse pour chanter les louanges du puissant.
Alors, à l'origine, le kathak est dansé par les hommes dans les temples. Donc, c'est une danse sacrée.
D'accord.
À la base.
Ok.
Et lors de la dernière invasion moghole, le kathak a été dansé dans les cours des temples et est devenu une danse profane et dansée par les femmes, par les courtisanes. Et c'est à cette époque-là que le kathak a pris tout son côté racé, élégant, virtuose. De nouveaux instruments se sont insérés dans l'orchestre, parce qu'ils venaient de Perse, d'Afghanistan. Voilà.
D'accord. Parce que précisons tout de même que cette danse s'épanouit, peut-être ne naît pas, mais en tout cas s'épanouit dans ce contexte très particulier de la conquête musulmane du nord de l'Inde.
Oui.
Donc la période moghole, comme vous venez de le dire, on l'appelle comme ça. Et par contre, elle était née dans un contexte de culture bouddhiste ou hindouiste, excusez-moi.
Oui.
Et du coup, c'est vrai qu'elle a repris les canons, la danse kathak a repris certains canons pour les adapter à la période musulmane, où effectivement les conquérants ont apporté dans leur sillage des instruments de Perse, comme vous venez de le préciser, c'est vrai. Il y a un autre aspect qui, par contre, me paraît purement indien, mais vous allez me dire si je me trompe ou pas, ces fameux bracelets à grelots qui sont autour de vos chevilles.
Oui, c'est
ça, vous en jouez merveilleusement.
C'est une longue corde. C'est le seul style de danse indienne où on a autant de grelots. On a 150 grelots à chaque pied. Ça pèse à peu près 4 kilos en tout.
Ah oui, quand même.
Et donc, c'est une longue corde où chaque grelot est attaché, noué d'une certaine manière. Et donc, on enroule autour de la cheville ces grelots.
Mmh.
Et c'est vrai qu'en kathak, les frappes de pied sont travaillées d'une manière vraiment très particulière, parce qu'on considère que les pieds sont vraiment comme une percussion. Et donc, on travaille son instrument de fond en comble dès le début. Donc, on met les grelots dès le début, pas seulement pour les spectacles, même en cours, on a ces grelots. Alors que dans les autres styles de danse indienne classique, les grelots ne se mettent que sur scène. Voilà, il n'y a pas ce même travail à la rythmique.
D'accord.
La rythmique en kathak est beaucoup plus riche, beaucoup plus développée. Et elle, en fait, elle répond aussi à une demande de virtuosité de cette époque-là, dans les cours des empereurs, où les empereurs demandaient toujours plus
de raffinement,
plus de one-man show, plus de virtuosité.
One-woman show, en l'occurrence,
oui.
Alors, quelque chose qui m'a intrigué, c'est que nous, quand on m'a dit que, quand j'ai cru comprendre que la danse kathak était une danse de cour pour faire honneur au roi local, eh bien, j'ai vu la couleur pourpre de votre robe, très jolie, et je me suis dit, est-ce que la couleur pourpre a les mêmes implications symboliques dans la culture indienne, qu'elle soit moghole ou qu'elle soit hindouiste, parce que ça évoque à la fois l'érotisme, les robes de pourpre de Marie-Madeleine par exemple, ou bien ça évoque le pouvoir comme la pourpre des empereurs grecs. Et en Inde alors, cette couleur rouge, elle a une implication spéciale? Il y a une raison précise pour laquelle vous portez une robe rouge?
Non, il n'y a pas de raison précise. Non, c'était...
Ça vous va bien, c'est pas la question.
Merci. Hein. C'était juste ce costume-là. J'avais un autre costume en début de festival et qui était turquoise. Voilà.
Ah d'accord, bon. Je vois le mal partout. Et faut croire. Et la couleur pourpre, dont disais-je. Et donc ces bracelets, ces grelots attachés à vos chevilles. 4 kilos quand même. Vous êtes tellement gracieuse que j'aurais pas imaginé que c'était 4 kilos. C'est quand même assez confondant d'apprendre ça.
Pour le costume, peut-être que justement, ça rappelle dans le deuxième costume, on retrouve le rouge puisque j'ai un costume noir, et donc on retrouve le rouge, il y a une thématique en fait de rouge, on passe à noir, on reste avec le noir sur la troisième pièce également.
Ah oui, mais ça voilà, c'était ma transition, ça faut pas me casser ma transition comme
ça. Désolée.
Et donc voilà, on a avec ce premier tableau assez traditionnel les éléments de base de la danse kathak tels qu'ils peuvent être accessibles aux gens qui ne s'y connaissent pas forcément, comme c'était mon cas. Et un autre aspect, c'est vrai que les frappes de pied, pour ma part, je connais ceux du flamenco et j'ai pas pu empêcher de faire le rapprochement, sauf que vous êtes
pieds
nus sur scène. Mais moi je suis habitué au son mat et sec des talons des danseuses de flamenco, pour autant les vôtres ne font pas moins d'énergie et s'ils font moins de bruit, ils sont aussi subtils dans la frappe. Vous avez différentes techniques à ce niveau-là.
Comme je disais, c'est vraiment comme une percussion. Vous avez différentes manières de taper sur un tambour ou quel que soit le tambour, si c'est un son mat, si c'est un son au contraire ouvert, okay, claqué. Ouais. Voilà. Donc avec différentes parties de la main et là, différentes parties du pied, que ce soit la demi-pointe, le talon, la tranche du pied, le pied à plat. Donc le pied à plat donne un son beaucoup plus ouvert qui claque. Voilà. Et donc après, on mélange toutes ces variations de frappe de pied à plat, talon. Voilà.
Bon,
ça
voilà,
s'enchaîne très très vite, mais en effet, c'est tout à fait apparenté au flamenco et
c'est le dieu indien Hanuman qui faisait des tremblements de terre en tapant du pied par terre. Je ne sais pas s'il y a une correspondance dans cette volonté de vouloir taper du pied, mais en attendant, c'est quand même bien réussi. Et effectivement, le deuxième tableau se rapproche un petit peu de mon intuition sur les liens entre le flamenco et la danse kathak, puisque effectivement, vous réinterprétez la musique de Maurice Ravel, une musique plus intimiste au piano, comme vous nous l'avez rappelé. Et là, vous avez une robe différente, une robe noire avec des liserés de rouge. Alors on sait que le noir, le rouge, hein, c'est la couleur de la passion. Et là, en l'occurrence, bah, votre chorégraphie s'y adapte avec des grands mouvements de jupe, mais qui évoluent par rapport à ceux du premier tableau. C'est-à-dire que n'ayant pas la même jupe, vous ne faites pas tout à fait les mêmes mouvements, mais on sent quand même le rapprochement entre les deux. Et ça, c'est un rapprochement qu'on peut retracer de façon historique, puisqu'il y a eu des évolutions avec notamment les gitans qui sont partis du Rajasthan,
région
du Nord-Inde.
Oui, c'est pas dans l'autre sens. C'est le kathak est beaucoup plus ancien que le flamenco, et donc ces migrations se sont aussi enrichies des différents styles de danse et des différentes cultures qu'ils ont rencontrées sur leur chemin. Et donc voilà, le flamenco est devenu ce qu'il est, notamment des mouvements du bassin qui n'existaient pas en kathak et qui sont présents dans le flamenco. Mais au niveau des frappes de pied, il y a énormément de similitudes, sauf que nous, voilà, c'est sans chaussures, c'est pieds nus.
Et donc, d'après ce que vous me disiez, la danse kathak existe depuis à peu près 2000 ans, d'après ce que disent les historiens.
Oui.
Et le flamenco codifié depuis 200-300 ans. Donc on peut suivre les pérégrinations de ce peuple gitan du Rajasthan, du nord de l'Inde, jusqu'en Espagne, en passant par d'autres endroits, notamment les endroits où on faisait de la danse orientale et où se sont rajoutés ces mouvements de bassin qui ne sont pas forcément présents dans la première partie de votre spectacle. Et ce boléro de Ravel est aussi le tremplin vers une interprétation plus moderne et beaucoup plus personnelle du Kathak que dans le troisième et dernier tableau que vous nous proposez, avec des voix, excusez-moi, je rebondis sur un aspect, boléro, tel qu'on le connaît, c'est une forme musicale et de danse liée au flamenco, mais vous nous avez expliqué après coup, après le spectacle, qu'en fait, le terme indo-européen, le terme primitif boléro, en fait, vient de l'Inde, là aussi.
Oui, en hindi, bol veut dire parole.
D'accord. Donc, le boléro pourrait venir d'une vieille tradition hindoue.
Et pourquoi pas?
Pourquoi pas? Donc, on sait que les langues indo-européennes, telles qu'on les parle en Europe, viennent de l'Inde depuis 10 000 ans ou plus. Et donc là, on en a un exemple supplémentaire. Et je reviens sur ce tableau, ce troisième tableau et cette interprétation contemporaine de la danse Kathak, où vous êtes pas mal investi, j'ai l'impression, puisqu'on entend des sons, tout d'abord l'alphabet grec, des voix en fait qui récitent l'alphabet grec, des onomatopées, qui veulent dire a priori rien dire, des sons sourds, des sons mat, et votre chorégraphie au milieu. Alors comment vous avez orchestré tout ça?
Alors,
et pourquoi?
Juste avant de répondre à cette question, pour moi le boléro c'était déjà une évidence au niveau de la jonction de toutes ces cultures. Vraiment ça m'est venu comme une évidence, une intime conviction, enfin, voilà, c'est quelque chose que je ressentais très très fort en moi, et de pouvoir interpréter le boléro avec du Kathak. Voilà, parce que la base de ma chorégraphie, c'est quand même le Kathak.
Bien sûr.
Je réponds à l'autre question.
L'autre question, donc, qui était la manière dont vous êtes inspiré pour cette chorégraphie moderne, cette interprétation moderne du Kathak, et comment vous y êtes investi?
Alors, sur la troisième pièce, ça répond en effet à une question. Quel texte mettriez-vous sur du Kathak? Quel texte pourrait correspondre à la danse Kathak, si le Kathak était un texte? Bon, c'est une question qu'on m'a posée à l'occasion d'un atelier de danse, parce qu'il y avait un atelier de danse contemporaine et texte et danse, voilà. Et donc, en effet, quel texte pourrait correspondre au Kathak? Et pour moi, le Kathak, c'était des phrases de diction, les chaussettes de l'archiduchesse, par exemple, avec toutes ces imbrications de rythme un peu complexes, et voilà, donc les allitérations et tout ça. Et donc j'ai commencé par ce travail-là, de chercher des phrases de diction qui étaient déjà plus longues que juste une phrase. Donc en effet, on retrouve l'évadé du Nevada, donc c'est très long. Les papous, Kiki la cocotte, voilà. Mais aussi c'était la pulsion vocale. En danse indienne, d'ailleurs dans toutes les danses indiennes, chaque mouvement ou chaque frappe de pied correspond à une onomatopée qui sont propres. Des onomatopées qui sont propres à la danse indienne. Donc, le propre de l'onomatopée, c'est de ne rien vouloir dire, mais de donner une idée de comment le pied est frappé ou comment le mouvement se fait dans l'espace. Et donc, de ce point de vue-là, je l'ai transposé avec des onomatopées occidentales. Splash, boom, badaboom,
whiz,
shibar. Voilà. Des onomatopées qui ne veulent rien dire, mais qui sont de notre culture. On comprend. Si ça fait splash, on comprend que ça tombe dans l'eau. Voilà. Donc j'ai repris tout ça et je l'ai adapté dans cette chorégraphie. Vraiment en dénaturant complètement le lien qu'il peut y avoir entre l'onomatopée de la danse Kathak et la danse Kathak. Donc, ce qui fait que la pulsion vocale devenait un autre mouvement.
Vous avez poussé le principe à l'extrême, en fait, en quelque sorte.
Un petit peu, voilà.
Et c'est vrai qu'au niveau de cet alphabet grec, notamment, et des petites références qui sont faites de manière très parcimonieuse, mais à la culture grecque, et je ne peux pas empêcher de penser que cette région du nord de l'Inde et de l'Iran et de l'Afghanistan sont des régions qui ont été conquises il y a 2300-2400 ans par Alexandre le Grand, le grand empereur grec.
Et oui.
Voilà, qui avait apporté un petit peu dans ses bagages la culture grecque, là aussi. Et puis, on pourrait, par le truchement de votre spectacle, c'est vrai que je me suis amusé à faire des rapprochements entre les ragas, qui sont les des formes musicales et de danse aussi propres à la culture indienne. La culture indienne, pas forcément hindoue, mais en tout cas la culture indienne, et les modes grecs, les modes qu'utilisent les jazzmen aujourd'hui encore, qui sont une manière d'associer les différentes notes, les différents sons pour en faire des gammes notamment. Voilà, et donc il y a des correspondances entre le monde indien et le monde occidental qu'on ne soupçonnerait pas forcément et que vous êtes amusé à mettre en scène.
Tout à fait.
Et alors,
et dans les alphabets, il y a aussi l'alphabet normal, hein, français, A, B, C, D, voilà. Donc dans la danse indienne, ce que vous avez peut-être remarqué, c'est qu'on a beaucoup de gestuels, on le retrouve beaucoup dans d'autres formes de danse indienne, et souvent quand on dit danse indienne, ah oui, c'est on fait tel geste et tel geste, un petit peu pour singer. Donc en kathak, on a aussi cette gestuelle qu'on appelle les mudras, un petit peu comme un alphabet. Et donc j'ai travaillé sur l'alphabet de la langue des signes, que je pratique également par ailleurs. Et j'ai repris donc les alphabets de la langue des signes, mais sortis de leur contexte de la langue des signes et mis dans le contexte de la danse indienne. Donc par exemple, le pouce relevé comme ça, comme si on disait super, ça c'est la lettre A.
D'accord.
Mis comme ça, sauf que je le présente comme ça. Donc
vous avez les deux pouces levés de chaque de part et d'autre du micro. C'est pas ça. Je traduis parce que c'est pas la langue des signes, c'est pas facile à la radio de bien la faire passer. Mais c'est vrai qu'on se fait une petite idée de votre démarche artistique.
Mais ça, c'est un mouvement de danse indienne.
D'accord.
Voilà. Donc je l'ai transposé en utilisant les signes de la LSF.
D'accord.
Voilà. Entre autres. Après, vous avez en effet l'alphabet grec. Il y a un texte, un poème grec de Pindare.
Oui, Pindare.
Il y a un texte
oui.
d'Antonin Artaud, de Solali.
Pindare, un poète de l'Antiquité grecque, justement, on revient à Alexandre le Grand. Antonin Artaud, effectivement, vous avez parlé un petit peu de toutes ces références-là qui apparaissent dans ce troisième tableau de votre chorégraphie et de ce spectacle, Kathak à contre-courant, à l'Espace Alia, tous les soirs à 22h30 jusqu'au 30 juillet. Voilà, pour la suite du festival, enfin après le festival, quels sont vos projets ?
Je pars en Inde.
Oh,
dès la semaine prochaine.
Quelle surprise !
Oui.
Très bien, bah écoutez, et vous en reviendrez sans doute avec d'autres idées que vous reviendrez nous exposer sans doute un jour à l'antenne. En tout cas, merci Isabelle Anna d'être venue nous parler de ce spectacle que je rappelle à l'Espace Alia à 22h30, Kathak à contre-courant et que vous une danse traditionnelle indienne, une danse folklorique que vous réinterprétez justement de manière très personnelle, un peu à contre-courant là aussi. Et bien je vous propose, pour nous replonger dans l'ambiance musicale de l'Inde du Nord, je vous propose d'écouter quelques notes du musicien pakistanais sans doute le plus connu, Nusrat Fateh et Ali Khan avec le titre Tume Dilagi.
Merci.
Oh, तो देखो
मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो
तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे
तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे
कभी दिल किसी
से लगा कर तो देखो
re ga ga da re 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 da sa da sa 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 da 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 sa 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 da 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 de 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 sa da
کبھی ایک نگاہ ہے کرم کس طرف کی I'm